Chers bien-aimés, nous commençons à parler de l'histoire du christianisme, de l'Église primitive entre 65 et 430 après Jésus-Christ. L'histoire du christianisme est inextricablement liée à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dans l'un des premiers documents du Nouveau Testament, saint Paul écrit aux chrétiens des Galates les mots suivants. Mais quand la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Galates, chapitre 4, verset 4. Dans la plénitude du temps, il y a deux mots différents pour exprimer le temps dans le Nouveau Testament. Chronos exprime le temps qui peut être mesuré, compté, divisé en minutes, heures et mois, années, siècles, etc. Chronos, c'est temps que nous expérimentons, c'est le temps que nous expérimentons chaque jour. Mais il y a un second mot grec pour exprimer le temps, c'est le kairos. Kairos, c'est le temps comme moment opportun, le bon moment, le temps qui est porteur de sens et de signification. La foi chrétienne est basée sur le fait que l'événement de Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection a changé pour toujours le sens du temps et l'histoire humaine dans sa totalité. Comme l'a dit l'apôtre Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1, 14. En Jésus, les chronos sont devenus kairos. L'avènement de Jésus est si important du point de vue du temps que l'histoire humaine est divisée en deux périodes, avant et après la naissance de Jésus-Christ, comme on dit AD, c'est-à-dire en latin Anno Domini, latin pour l'année du Seigneur, et AC, avant Christ. L'étude de l'histoire chrétienne est enracinée dans la préposition la plus fondamentale de notre foi, à savoir que Dieu lui-même est entré dans la chaîne et la trame de notre existence humaine comme un bébé né dans une crèche. Ainsi, l'étude de l'histoire chrétienne n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Car le christianisme n'est pas avant tout une philosophie de la vie, ni un code de conduite, ni même un ensemble de rituels. Il est l'histoire de ce que Dieu lui-même a dit et fait dans l'espace et dans le temps en la personne de son Fils qui a vécu sur la terre et à travers l'œuvre de son Esprit à travers les âges. Le mot « Église » ne se retrouve que deux fois dans les évangiles, uniquement dans l'évangile de Matthieu, en réponse à la confession de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dit Jésus, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. L'histoire du christianisme est dans une certaine mesure l'histoire de l'accomplissement de cette prophétie du Christ. Le christianisme a commencé comme une petite secte du judaïsme palestinien. À la fin du 1er siècle, il était déjà devenu une force importante au sein de l'Empire romain. Lorsque Jésus fut crucifié, le gouverneur romain Ponce Pilate demanda que les mots « Jésus, roi des Juifs » soient écrits sur sa croix en trois langues, l'hébreu, le grec et le latin. Ces langues représentaient les trois mondes dans lesquels les premiers chrétiens vivaient et témoignaient du Rédempteur crucifié et ressuscité. Parlons donc du monde de la religion juive. Jésus était né en juif, comme l'a été son plus grand interprète, l'apôtre Paul. Quand Paul a rappelé à son jeune disciple Timothée comment, dès son enfance, il a connu les Saintes Écritures par lesquelles il avait appris le chemin du salut, il se référait bien sûr aux Écritures hébraïques, à l'Ancien Testament, que les chrétiens considéraient comme la parole inspirée de Dieu accomplie à travers Jésus-Christ. L'une des décisions les plus importantes de l'Église primitive était la conservation de l'Ancien Testament comme l'Écriture chrétienne. Cela signifie que le Dieu de la création, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'était autre que le Dieu et le Père du Messie, Jésus-Christ. Parlons du monde et de la culture grecque. Depuis le temps d'Alexandre le Grand, environ 300 avant Jésus, le monde méditerranéen était unifié dans une culture intellectuelle commune que nous appelons l'hellénisme. Une nouvelle forme de la langue grecque, le koiné, la langue commune, était devenue courante. Les écrivains du Nouveau Testament ont utilisé le grec koiné pour répandre le message de Jésus dans tout l'Empire romain. Le christianisme devait aussi s'attaquer à la tradition philosophique grecque, à l'héritage intellectuel de Platon et d'Aristote, au stoïcisme et à l'épicurisme. Tertullien, un père influent de l'Église de Carthage, a posé une question célèbre. Qu'est-ce qu'Athènes a à voir avec Jérusalem? Saint Paul lui-même n'avait-il pas dit que la prédication de la croix était une folie pour les Grecs, comme elle avait été une pierre d'achoppement pour les Juifs? Mais si le christianisme devait se faire entendre sur le marché des idées, alors certaines paroles et idées grecques devaient être rebaptisées avec un sens chrétien. Certains apologistes ou encore apologètes comme Justin Martyr et Origène allèrent jusqu'à prétendre que la philosophie grecque, avec ses concepts d'ordre, de justice et de beauté, avait en fait préparé le chemin du Christ parmi les Grecs, comme Moïse et les prophètes avaient fait pour préparer le chemin parmi les Juifs. Mais jusqu'où pourrait-on aller dans cette direction sans perdre l'essence même de l'Évangile ?